Bonjour à tout le monde. Je sais pas si ça c'est. Je suis petite. Merci. Oui, c'est bon. Oui. Bonjour à tout le monde, je disais, et je vais commencer par prier. Merci, notre Père, de ces temps que tu nous accordes pour méditer ensemble autour de ta parole. Seigneur, je te demande que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin. Et que tu ouvres ma bouche, parce que moi, je n'ai rien à dire. Mais toi, tu as des choses à dire à chacun. Et que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de Jésus. Mais pas du Jésus de la crèche, du Jésus, celui-là, on en parlera la semaine prochaine, le 24, le 25. Et souvent, en fait, on parle de Jésus dans l'Église en tant que sauveur, et c'est tellement vrai, et c'est tellement important. Il est venu, il a vécu, et il a mort pour nous. Il a pris nos péchés sur lui pour qu'on puisse accéder directement au Père. Extraordinaire. Mais Jésus est présenté aussi dans les récits bibliques comme le maître, le rabbi en hébreu. C'est lui qui nous enseigne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas, surtout pas faire. On les connaît aussi comme roi, on l'a chanté, notre roi. Parfois on parle de lui comme juge, mais aujourd'hui, je vous invite à aborder une autre facette de Jésus, peut-être moins explorée, ou peut-être oui, on ne sait rien, mais qui est très enracinée dans les récits bibliques de A à Z, de Genèse à Apocalypse. Et je vais parler de Jésus en tant que le fiancé. On va parler d'amour et des mariages. C'est pas mal, non? Parce que Jésus va se marier, c'est écrit. Et savez-vous que vous êtes tous et toutes invités au mariage? Et que dans ces mariages, attention, parce que vous avez un rôle un peu, comment dire, important à jouer. Vous êtes la mariée. Non. Oui. Vous, moi et toute l'Église de Jésus répandue dans le monde entier. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, c'est... Là, j'ai mis un morceau de la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est Paul qui nous en parle. Par exemple, il y a plein d'indices dans toute la Bible. Il dit, « Car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. » Les grâces, c'est moi qui l'ai mis. Hein. On est donc fiancé à Jésus. C'est encore Paul, dans la lettre aux Éphésiens, qui dit « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet des Christ et de l'Église. C'est-à-dire, Paul utilise le mot « mystère » pour dire qu'il y aura cette union, vraiment mystérieuse, entre Christ et son Église comme entre un homme et une femme quand ils vont se marier. Et quand est-ce que cela va se passer? Là, on va abandonner Paul et on passe à Jean, l'apôtre, qui reçoit cette révélation de Jésus, c'est appelé comme ça en fait, Apocalypse, ça veut dire seulement révélation. Dans les chapitres 19, on lit, je ne vois pas, je dois changer mes lunettes. Laurent, pardon, j'ai des lunettes de prix, je n'arrive pas à lire ça. Ou peut-être non, je vais lire par là. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grands eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ces lins représentent les statuts des membres du peuple saint déclarés justes. Comme quoi, on va se marier à la fin du temps. Et c'est connu comme les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est qu'on a lu ici dans l'Apocalypse, on pourrait dire c'est l'aboutissement, le happy end, l'achèvement des millénaires et millénaires d'amour d'un Dieu qui essaye de vivre avec son peuple dans une union, on dirait, mystérieuse d'amour. Et du coup, l'Église va se marier avec Jésus et on est déjà fiancés. Alors, on va essayer de comprendre cette réalité mystérieuse, pour prendre les mots de Paul, une réalité qui nous échappe. Et pour cela, on va voir de près comment s'est passé les fiançailles dans la culture juive à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, c'est un homme juif qui naît à Bethléem, qui meurt à Jérusalem, qui a plein de disciples auxquels il parle et sont tous des juifs. Et du coup, les images qu'il utilise, ils sont enracinées dans la culture juive. On va faire ça et on va aussi piocher quelques textes ici et là dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour essayer d'éclaircir. Parce qu'on va essayer de comprendre quelle relation du coup a Jésus avec nous en tant que fiancés et aussi quelle relation avons-nous avec lui si nous sommes sa fiancée. Alors, comment ça commence les fiançailles? Bien, d'abord, il y a les choix de la fiancée et c'est le père du fiancé, du garçon, qui a l'initiative et qui va envoyer quelqu'un. Ça peut être son fils, ça peut être un serviteur de confiance, ça peut être lui-même. Il va aller chercher la femme. On a un exemple de cela dans l'histoire d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on verra un petit morceau après. Abraham veut chercher femme pour Isaac et du coup, il envoie son serviteur Eliezer aller chercher une femme. On retrouve cette histoire en Genèse 24. Pareil, pour suivre l'analogie, on pourrait dire que Dieu, le Père, a envoyé son fils Jésus sur la terre pour mourir pour nous, pour nous montrer les chemins, mais aussi dans cette clé d'interprétation que je vais utiliser aujourd'hui tout au long de la prédication, pour chercher sa fiancée. L'Église, c'est-à-dire nous. Une fois que le fiancé retrouve la fiancée, dans la tradition juive, il lui fait sa proposition. C'est assez logique. Et il faut que celle-là l'accepte, qu'elle dise oui. Et je vais insister un peu sur ces points-là. Dans la tradition juive, les fiançailles, jusqu'à présent, dans les groupes vraiment orthodoxes, sont arrangées. Mais la fiancée a les derniers mots. Si elle dit non, c'est non. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, encore, dans certaines traditions et dans certains pays, les femmes et même les filles sont forcées à des mariages. Ce n'est pas notre tradition, ce n'est pas notre culture. Notre Dieu est un gentleman, et je le dis comme ça. Il va toujours lancer des initiatives et des invitations, jamais forcer la porte. Et là, on va aller à ces morceaux de Genèse dont je vous parlais. Genèse 24, ici, Eliezer, le serviteur d'Abraham, est déjà arrivé. Il a fait la proposition à la famille de Rebecca. Et la famille dit, oui, oui, très bien, prends la fille, voilà. Et on lit, pardon, c'est pas ces moments-là, il dit, on va appeler la jeune fille. Ils disent oui, mais il faut que la fille dise oui. Et alors, il l'appelle, appelons la jeune fille, dirent-ils, et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui demandèrent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit, « Oui. » Et c'est pareil, hein, je vais faire maintenant une analogie. Tout au long de la prédication, je vais faire l'analogie entre les fiançailles juives et les fiançailles de Jésus avec nous. Mais il y a aussi une autre analogie qui vient de plus loin. C'est au début de l'histoire du salut. En fait, la première alliance que l'Éternel fait avec son peuple, avec Israël, c'est aussi, on peut dire, une alliance matrimoniale. Je ne sais pas si vous avez vu que tout au long de l'Ancien Testament, surtout dans les récits des prophètes, souvent le peuple, quand il est rebelle, il est traité d'adultère. Adultère, c'est un mot de contexte marital pour parler d'une personne qui va voir ailleurs, qui brise l'alliance maritale. Et en fait, le peuple d'Israël, aujourd'hui, se considère l'épouse de l'Éternel. En tout cas, Dieu propose une première alliance au peuple d'Israël tout au nord du mont Sinaï. Et pareil, il faut que le peuple l'accepte. En Exode, au moment du don de la loi, on lit « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Autrement dit, oui, on accepte. Et là, c'est tout au début du chapitre. Plus loin dans le chapitre, Moïse va reposer la question, va relire la Torah, va reposer la question et ils vont dire oui, on va tout obéir. En fait, on parle souvent du don de la Torah, non, du Pentateuque, qu'on dit nous, des cinq premiers livres. Mais en fait, pour être plus exact, il faudrait parler du don et de l'acceptation de la loi. Ce n'est pas seulement que Dieu donne sa parole, c'est aussi que le peuple l'accepte à voix haute, en public, devant tout le monde. Et c'est pareil pour nous dans le cas de Jésus. Il nous invite à une nouvelle alliance. On va retrouver plus tard un texte où c'est même écrit ça. La nouvelle alliance que Jésus inaugure avec nous. Par exemple, je n'ai pas mis, mais on a ces versets qu'on connaît très bien en Apocalypse 3, 20. Je dis à peu près de mémoire où Jésus dit « Mais voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un entend ma voix et ouvre, moi je rentrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ça c'est une image de l'intimité, de la relation intime. Mais regardez, il faut déjà entendre, mais après il faut ouvrir la porte. Pareil, Jésus, c'est un gentleman. Il va lancer des invitations tout le temps, jamais foncer la porte. Mais si on est libre d'accepter, mais si on veut accepter, il faut les dire à voix haute. Il faut faire profession de foi. Oui, comme Rebecca a dit oui. Oui, comme le peuple d'Israël a dit oui en bas du mont Sinaï. Oui, comme les fiancés juifs, pareil, aujourd'hui encore, disent oui. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, du verset 8 à 10, on lit aussi des versets très connus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a aussi une belle analogie entre les fiançailles de Rebecca et les nôtres avec Jésus. Rebecca, elle a dit oui et même avant avoir rencontré et vu de loin Isaac, ce qui est super extraordinaire dans notre culture aujourd'hui, tellement audiovisuelle. Non, on nous dit les noms de quelqu'un, on tape sur Google et on peut savoir plein de choses de cette personne. La photo, les curriculums. Elle ne sait rien, mais elle a dit oui. Dans cette histoire, Isaac représente Jésus, Rebecca représente nous, l'Église. Et nous aussi, si on est rentré dans cette alliance, nouvelle alliance avec Jésus, et on a dit oui à Jésus, sans l'avoir vu. Et ça, oh pardon, c'est dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 8. C'est Pierre qui parle là. Jésus, vous ne l'avez vu, et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Alors, je vais faire une petite récapitulation pour qu'on ne se perde pas dans ce voyage à travers des fiançailles juives. Je disais donc que les fiançailles, dans la tradition juive classique, c'est toujours l'initiative du père, du fiancé, qui disent c'est l'âge déjà pour que mon fils se marie, et on voit quelqu'un pour chercher épouse. Alors, c'est lui qui est envoyé, fait sa proposition à la femme choisie, et la femme doit dire oui ou non, pour que les fiançailles soient vraies et certaines. Il manque ces mots. Un oui verbalisé et public. Alors, une fois la femme acceptée, la famille du fiancé va payer une dot, payer un prix. Quand on utilise le mot payer, souvent dans notre culture, on a l'impression qu'on achète les personnes. Mais ce n'est pas dans ce sens, dans la culture méditerranéenne. Dans ces cultures, c'est dédommager la famille. Et en fait, nous, on parle aussi que Jésus a payé un prix pour nous. Après aussi, on va lui offrir des cadeaux, des bijoux. Dans notre cas, c'est le sang de Jésus qui a été payé. Et on retrouve cela encore dans la première épître de Pierre, un peu plus loin. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Je disais donc qu'il faut payer une dot et aussi il y a un échange des cadeaux, comme une alliance ou des bijoux. Et là, on retrouve encore, on revient sur l'histoire de Rebecca et Isaac. Genèse 24, « Lorsque les serviteurs d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Puis ils sortissent des objets d'argent et d'or et des vêtements pour les donner à Rebecca. » Alors nous, si nous sommes fiancés à Jésus, est-ce qu'on a reçu des cadeaux? La dot a été payée, les prix a été payé. Mais est-ce qu'on a des cadeaux? Mais oui, bien sûr, on a des cadeaux. On retrouve ici, par exemple, en 2 Corinthiens et Éphésiens, je lis. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. C'est l'Esprit Saint, on le retrouve aussi en Éphésiens. Cet esprit, la même idée, constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. On n'a pas une alliance dans la main, on a une alliance dans le cœur, scellée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint avec tout ce qui veut dire avec, ses dons, ses fruits. Mais pas que ça, Jésus a payé les prix et du coup on est justifié. C'est un mot un peu comme ça, mais ça veut dire tout simplement que Dieu nous regarde et nous voit comme si on était son péché. Il a payé les prix. Il nous a donné la vie éternelle, la grâce, la foi. Je continue avec les fiançailles. Pour marquer ces moments des fiançailles, les fiancés vont tronquer avec une coupe les rituels du kiddushin, de la sanctification. Et sanctifier, dans ce sens, la fiancée, ça veut dire qu'elle est mise de côté. À partir de ces moments-là, elle ne peut pas aller voir ailleurs. Il n'y a pas d'autres garçons qui vont la fréquenter. Hop, elle a été mise, comment dire, en réserve, en attendant les jours des mariages. Et quand est-ce qu'on voit Jésus avec une coupe? Et oui, c'est la nuit où il va être trahi. C'est la nuit où il va être arrêté. C'est la nuit où il célèbre la Pâque juive, les Pessahs, avec ses copains, avec ses amis, les disciples. Et je vais lire dans cette version de Matthieu 26. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. » Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous les déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux, avec vous, dans le royaume de mon Père. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Je vais m'attarder un peu sur ce moment fondateur pour nous. Jésus scelle l'accord de la nouvelle alliance, nouvelle par rapport à la première qu'on a vue de Moïse, du Sinaï, de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer. Alors, je vais raconter un peu qu'est-ce que c'est le Seder Pessah, qu'on dit en hébreu, les repas des Pâques, parce que ça va nous éclaircir sur certains aspects-là. La nuit des Pâques, les Juifs prennent 4 coupes de vin. Et chaque coupe se souvient d'une promesse de Dieu le Père, exprimé en Exode 6. On va aller voir tout de suite ces 4 coupes de vin. Tout ça se retrouve en Exode 6, en seulement 2 versets, il y a 4 verbes puissants où l'Éternel fait des promesses qui vont se réaliser après, dans la sortie et l'arrivée au mont Sinaï. La première coupe s'appelle la sanctification. Pareil que la fiancée, Dieu prend son peuple et les sort, et les met des côtés pour lui. Et ça célèbre ici, « Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. » La deuxième coupe, c'est la coupe appelée du jugement. « Je vous libérerai de l'esclavage qu'il vous impose. » Il passe de la maison de l'esclavage à la maison de l'Éternel. Et il parle de la libération. Bien sûr, on célèbre la libération, mais les saluts pour les uns, pour les Israélites, c'est les jugements pour les autres, pour les Égyptiens. Et en fait, il y a un peu de... Il y a respect de tous les sangs qui a été versé pour qu'ils puissent partir d'Égypte. La troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption. Je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant des terribles jugements. Et la quatrième coupe, je crois que je l'ai mis en gras, oui, c'est la coupe de la louange qui célèbre les versets qui dit « Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors, les repas de la Pâque, je viendrai un peu en arrière, on reprend les textes de Matthieu, c'est un repas très comment dire, organisée. En fait, seder, ça ne veut pas dire repas, ça veut dire ordre, déroulement. Alors, on mange, bien sûr, on boit, mais tout est dans un ordre, comme si c'était un peu une liturgie qu'on fait à la maison, à table, d'accord ? Alors, ce n'est pas que, voilà, maintenant je me mets à prier, non. Il y a un moment qu'on mange, il y a un moment qu'on mange ça, après on lit l'histoire, après on pose des questions, voilà. Il y a tout un ordre. Du coup, on sait, parce qu'il y a cet ordre, que là, Jésus prend la troisième coupe, celle de la rédemption. Comment on le sait ? Parce que la troisième coupe vient après, on remercie le repas. Il y a une prière pour ça. Et après, on chante, ici c'est écrit les chants des Pâques, mais ça s'appelle les Hallel, qui sont six psaumes, super beaux, c'est du 113 au 118, qui n'est pas seulement pour les Pâques, mais pour les trois fêtes des pèlerinages juifs. Les juifs chantent, ils sont des chants des louanges. Et du coup, Jésus, vous avez vu, dans les derniers versets, il dit « Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. » Et ça doit étonner celui qui est là, parce qu'il manque la quatrième coupe. Et ce n'est pas une question de « j'ai envie de boire ou je n'ai pas envie de boire ». Il faut tranquer la quatrième coupe pour célébrer la louange. Non ? Il dit « Non. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux avec vous dans les royaumes de mon Père. » Et pourquoi il ne les boit pas ? Parce que la quatrième coupe, c'est la louange. Et ça veut dire qu'on s'est unis, que Dieu nous a rédimis, nous a délivrés, et on a célébré, si vous voulez, ce mariage et cette union. Mais ça viendra, comme il lui-même annonce, à la fin des temps. Et c'est là qu'on va fêter cette quatrième coupe. Alors, les fiançailles sont officielles après tranquées. Et c'est de cela quand on se souvient aussi, quand on célèbre la Sainte Cène. Ce que les catholiques disent l'Eucharistie. Non ? Et Jésus, pas dans ces morceaux de Matthieu, mais je pense que c'est Luc et Paul en tout cas qui les dit, à un moment donné, il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Et j'ai envie d'enrichir cette interprétation. Voilà, je vous invite à, si ça vous va. Parce que j'ai l'impression que quand on dit ça, dans notre tête, on se souvient de la mort de Jésus à la croix, ce qui est capital, et il faut se souvenir. Mais il ne dit pas « faites ceci en mémoire de ce que je fais, faites ceci en mémoire des moi ». Et je me dis « tiens, on pourrait aussi se souvenir de qui il est par rapport à nous, qu'il est notre fiancé, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, parce qu'il viendra ». Et je dis ça aussi parce que les repas du Pessah, la Pâque juive, hein, les Juifs se rappellent de ce qui s'est passé au Netzod, se rappellent que Dieu est venu les libérer, et voilà. Mais ils ne restent pas là. Il y a certains qui mettent une chaise vide, qui va rester vide tout au long du repas. Bon, pourquoi ? C'est pour Élie les prophètes. Élie les prophètes ? Oui, Élie les prophètes, on retrouve son histoire dans les livres des rois. Et pourquoi on met la chaise ? Parce que Malachi nous dit qu'Élie va arriver avant les Messies. Et du coup, si ça se trouve, Élie est là. Et du coup, on est dans les temps messianiques. Oh, il ne met pas une chaise, il met une coupe. Et parfois même, il ouvre la porte. Et si Élie est là, la porte ? Et si notre Dieu est venu ? Et si les Messies arrivent là, non ? C'est-à-dire, la mémoire de la première rédemption nourrit notre foi pour aujourd'hui et nous projette vers la dernière. On a tellement envie que ça arrive. Et nous ? Est-ce qu'on pense à cet avenir ? Est-ce qu'on pense à Jésus comme notre fiancé qui va arriver un jour ? Mais ça, on voit plus tard. Alors, dans l'Antiquité, les fiançailles, ce n'est pas seulement, voilà, on échange des cadeaux, on dit oui. Non, il y a un contrat des fiançailles, un contrat prénuptial qui s'appelle Kedushin ou Erushin. Avec ces contrats, les fiancés s'engagent légalement, mais ils ne vivent pas encore ensemble, mais c'est du sérieux. Les contrats des fiançailles engageaient très fortement les fiancés. Ils n'avaient pas des relations sexuelles, c'est-à-dire les fiancés répartira s'il est là dans la maison de son père, la fiancée restera avec sa famille, mais on n'avait pas possibilité d'aller voir ailleurs. Et cette action était considérée comme de l'adultère. Et la loi les punissait avec la lapidation, comme on voit dans l'histoire de la femme adultère. Et c'est le cas dramatique où se trouvent Marie et Joseph. Précisément, ils étaient engagés et l'engagement était, il fallait faire une lettre de divorce pour faire un engagement. Alors pour nous, aussi c'est du sérieux. Quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, comme notre Dieu, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, nous sommes engagés avec lui. Je me souviens quand Laurent m'a demandé en mariage, c'était un 14 février pour la Saint-Valentin. Oui, super. Il sait que j'aime beaucoup les choses romantiques. Et du coup, il m'a invité à un restaurant. Et on était les deux là. Et il a fait sa proposition. Et il m'a offert une bague de fiançailles que j'ai là. Et après, voilà, on l'a annoncé aux parents. Voilà, on va se marier, voilà. Et du coup, toute ma vie a chamboulé. Bon, tout est resté pareil. Hein. Le lendemain, je me levais, je suis allée à mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire. Lui, il est réparti, tout ça s'est passé à Barcelone. Il habitait toujours à Clermont, il avait son boulot. Moi, j'avais mon boulot à Barcelone. Blablabla, oui. La vie continue. Mais ma tête, oh là là, oh, je vais me marier. Je suis fiancée. Et du coup, il y a plein de choses que tu arrêtes de faire. Ah non, non, il faut que je contrôle mon poids. Imagine-toi la honte que je ne rentre pas dans ma robe de mariée. Et il y a des choses que tu commences à faire. Il faut que j'apprenne à cuisiner. Non, là, c'est sérieux. C'est du sérieux parce que je veux me marier. Alors nous sommes engagés à Jésus. On va se marier avec lui. Est-ce que toute notre vie, même sans changer, parce qu'il est toujours là sur terre, lui, il est toujours là au ciel pour l'instant, est-ce que dans notre tête, dans notre cœur, les choses ont changé? Est-ce qu'on s'est orienté vers lui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a arrêté de faire parce que je vais me marier? Il y a des choses qu'on a commencé à faire parce que je vais me marier. On a tellement envie de se faire belle à l'intérieur et à l'extérieur parce que lui, il m'a choisi. Et en plus, tout le monde va te regarder. Parce que ces jours, c'est les jours où tous les yeux sur la fiancée, sur la mariée. Est-ce qu'on est conscient de ça? Après ces premiers contrats prénuptiales, arrive un contrat du sérieux matrimonial qui s'appelle la Ketouva. Ketouva, en hébreu, ça ne veut rien dire d'autre que ce qui était écrit. Ketouva. Et dans ces contrats, on pouvait lire les prix payés pour la fiancée, les promesses de fiancée à la fiancée et les droits et devoirs de l'un et de l'autre. Les documents disaient que les fiancés s'engageaient à pourvoir pour sa femme de la nourriture, des vêtements, de tout ce qu'elle aurait besoin et qu'il allait honorer et s'occuper aussi des enfants. En fait, dans la tradition juive, les mariages, c'est un cadeau pour la femme. C'est-à-dire, l'homme, c'est celui qui a les ressources. Les hommes ont reçu la terre, et la terre, c'est synonyme des ressources, des moyens de vie. La femme, bon, tant qu'elle est à la maison du père, c'est bon, mais elle n'a pas son patrimoine à elle. Il faut la protéger, il faut la assurer qu'elle n'a rien à craindre pour changer des maisons et pour rentrer dans cette alliance. Les mariages lui donnent des garanties, de l'assurance, les sens d'appartenance, un sens pour sa vie aussi. Les maris ne pouvaient partir, par exemple, s'il y avait des enfants malades, parce que tout était écrit. Alors vous dites, bon d'accord, hein, on est fiancés, mais on n'a pas des contrats. Et, ah mais oui, et voilà, notre ketouva, nous avons aussi ces documents, c'est la parole de Dieu, c'est écrit. Et là, on a deux diapos. On retrouve ça en Matthieu 6. C'est très connu aussi. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-il pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Je ne sais pas si je suis déjà dans la deuxième diapo. Oui, pardon. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu qu'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? En fait, on connaît très bien ces morceaux et je trouve très beau de voir que ça, ça coche la case, si on peut dire comme ça. Jésus nous fait cette promesse. Et ce n'est pas une promesse pour dire, bon, du coup, je ne m'occupe pas de ma vie, voilà, non. Parce qu'un peu plus en bas, je n'ai pas mis les versets, c'était déjà très long, c'est ces moments où il dit, mais il faut se préoccuper du royaume des cieux et son avènement. Et le reste vous sera donné. Ce n'est pas votre préoccupation. Vous avez une tâche à faire. Non? Et en fait, ça vient juste après que Jésus parle qu'on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et l'argent, d'accord? Qu'il faut choisir. De son côté, on voit que le fiancé doit faire plein de choses. Il part chercher la fiancée, il paye la dot, il la couvre des cadeaux. Voilà, il y a un contrat où il va garantir plein de choses. Mais la fiancée aussi doit faire quelque chose pour sa part. Et il doit se préparer. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on a lu Apocalypse, on parlait des noces de l'agneau, il disait, la fiancée, elle s'est préparée. Elle a un rôle actif. Dans la tradition juive, la fiancée, elle cousait son vêtement. Je suis contente que je ne suis pas dans ces moments-là parce que je n'ai aucune idée de coudre. Et si j'aurais dû faire mon vêtement pour ma robe de mariage, on ne serait encore pas mariés, toi et moi. Mais à l'époque, il fallait coudre son vêtement et c'est souvent les pères du fiancé qui fournissaient les tissus des lins blancs pour qu'elle fasse sa propre robe. Et elle devait se purifier. Se purifier dans un bain purificateur, ça s'appelle les mikvé. Et là aussi, je vais m'attarder un petit peu. Les mikvé. Les mikvé, c'est les mêmes mots qu'on retrouve quand on parle des Jean les Baptistes. Jean les Baptistes, ça veut dire Jean, c'est lui qui met les personnes dans l'eau. Parce que baptiser, ça veut dire immerser dans l'eau, complètement. Jusqu'à les dernières cheveux. Alors, pour nous aujourd'hui, dans notre tradition chrétienne, les baptêmes, c'est un peu un truc. On va me mettre dans l'eau, un peu comme on met la salade, et après on la ressort, et on les sort, et voilà, non ? On rentre dans l'eau et on sort. Bon, d'accord. Hein. Mais en fait, dans la culture juive, les bains rituels forment part de la vie juive communautaire. Il y a trois espaces importants. Les premières, c'est la table de la salle à manger, parce qu'il y a une table dans la salle à manger de la famille. Dans la tradition juive, ils disent souvent que la table, c'est leur autel. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent lors d'un repas à table. Comme on a vu, par exemple, les Seder Pessah. C'est une cérémonie liturgique et à la fois un repas. Deuxième espace où la vie communautaire vit, la vie juive, c'est la synagogue ou les centres d'études où ils vont aller les Shabbats pour faire les assemblées cultuelles, on pourrait dire, hein, lire la parole, l'étudier et l'apprendre aux autres. C'est aussi un centre culturel. Et depuis très longtemps, depuis les 6e siècle, ils ont compris qu'il fallait apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter parce que sinon ils ne pouvaient pas accéder à la parole. Et c'est les plus grands trésors qu'on a. Synagogue. Et le troisième espace très important qui est enraciné dans la culture juive, c'est les mikvé. Et les mikvé, c'est un bain rituel. C'est, si vous visitez jamais une synagogue, par exemple, du Moyen-Âge en Europe, vous verrez qu'il y a la synagogue et à côté, il y a comme un trou excavé dans les rochers. Et là, il y a de l'eau vive, de l'eau courante. Ce n'est pas peut-être de l'eau estagnée. Et là, il fallait passer plein de fois. Et encore aujourd'hui, les juifs orthodoxes, ils y vont. Pourquoi ? Hommes et femmes, par exemple. Parce qu'on a eu la menstruation. Après la menstruation, mikvé. Parce qu'on a eu des relations matrimoniales. Mikvé, hommes et femmes. Avant les Shabbats, mikvé. Quand les prêtres touchaient un cadavre, mikvé. Plein de fois. Du coup, quand Jean les baptistes disent aux gens, passez par la rivière, parce qu'il faut que ce soit de l'eau vive. Alors ça peut être la rivière, ça peut être le lac, ça peut être la mer. Passez, ils comprennent. C'est dans leur culture. C'est normal. C'est un geste de purification. Et pareil a vécu la fiancée, on peut dire, le peuple d'Israël, lors, avant leur alliance au nom du mont Sinaï. J'ai choisi ici un morceau d'Ézéchiel qui parle de cette relation entre l'Éternel et son peuple. C'est l'Éternel qui parle. « Quand j'irai passer près de toi et que je t'aurai vu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai tendu sur toi les pans de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur, l'Éternel, les déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. J'étais lavée à grande eau pour nettoyer le sang qui était couvert. Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. On se souvient tous, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge avant de conclure l'alliance avec Dieu le Père. La fiancée juive prend 100 bains rituels avant les mariages. Et nous, les chrétiens, nous plongeons dans l'eau des baptêmes comme marque aussi de notre alliance avec Jésus. Et dans les baptêmes, souvent, on fait profession des fois à voix haute et en public. Parfois, les personnes disent mais Jésus sait que moi je l'aime. Oui, mais les patrons bibliques veulent qu'on passe par l'eau et qu'on fasse profession de foi. Et on a un exemple très beau que moi j'aime beaucoup dans les livres des Actes, chapitre 8. Vous vous souvenez tous, bien sûr, c'est Philippe, l'apôtre, qui du coup, il y a un ange, je pense, qui lui révèle, il dit « vite, 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 va prendre la route, parce qu'il faut que tu retrouves quelqu'un ». Bon, bref. Et du coup, il prend la route, il va retrouver un dignitaire éthiopien qui est sur son char, en train de lire les rouleaux d'Ésaïe. Rien que ça. Et précisément, chapitre 53, qui est le chapitre messianique pour excellence. Non ? Et pourquoi il est là ? Bon, parce que depuis les temps de la reine des Saba, en Éthiopie, on sait que le vrai Dieu se trouve à Jérusalem et que c'est là qu'il faut aller l'adorer dans son temple. Du coup, le dignitaire revient vers son pays tranquillement, mais il ne comprend rien. Et Philippe qui se pose à côté de lui et qui lui dit, c'est déjà là ? Oui. Lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Non, je ne sais pas. Est-ce que ces prophètes Ésaïe, il parle de lui-même, là, dans ses chapitres, il parle d'un autre ? Alors Philippe prit la parole et partant de ses textes, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors les dignitaires s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, » répondit les dignitaires, « je crois que Jésus-Christ est le Fils des dieux. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter les chars. Philippe et les dignitaires descendirent tous deux dans l'eau et Philippe les baptisa. Je n'ai pas mis, mais plus tard, il dit qu'il est parti avec le cœur rempli de joie, ces dignitaires. Non ? Alors, à la lumière de ce qu'on a pris sur les fiançailles juives, je nous pose à nous tous et à chacun la question. Est-ce qu'on est vraiment entré dans l'alliance matrimoniale, les fiançailles ? On a dit oui avec notre bouche. Est-ce qu'on s'est fait baptiser, comme les dignitaires éthiopiens ? Et sinon, on peut se poser la même question qu'il s'est la posée, mais dans un autre sens. Qu'est-ce qui nous empêche de se faire baptiser et de faire profession de foi publique ? Et pour ceux qui sont dans l'Alliance, qui peut-être ont passé déjà cette étape du baptême, de la profession de foi, est-ce qu'on se prépare ? Est-ce qu'on accepte ce rôle actif ? Soyez rassurés, ce n'est pas une question de coudre un vêtement. Une fois tout accordé, les cadeaux échangés, les dos payés, la cobu, les fiancés vont partir. Et pourquoi ? Les fiancés juifs partaient pour préparer comment accueillir la fiancée dans la maison du Père. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et là, on passe à l'évangile des Jean. Ces moments super intimes de Jésus avec ses disciples, c'est une autre version de les repas des Pâques, où Jésus ouvre son cœur et parle avec une intimité qu'on n'a pas connue jusqu'à présent dans les évangiles. Il dit cette phrase mystérieuse, « Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Ben, » c'est bien, non ? Félicitations, très bien. « Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. » afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Bon, ça c'est les mots d'un fiancé à sa fiancée. Je pars, mais n'aie pas peur. En fait, les chapitres 14 commencent à « ne craignez pas ». Je veux partir, mais je pars parce qu'il faut que je prépare l'endroit pour t'accueillir. Et après, moi en personne, ce n'est pas un envoyé, moi, je viendrai. Et pourquoi ? Pour qu'on soit toujours ensemble. Le fiancé vient chercher sa future femme dès qu'il est prêt, dès qu'il a préparé. En effet, ce n'est pas une date, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était très compliqué. Ça pouvait s'écouler même une année entre la date de fiançailles et la date de mariage. Et c'est le père du fiancé qui donne l'autorisation à son fils de dire « C'est bon, tout est prêt, tu peux aller chercher ta fiancée. » Nous, pareil, on ne sait pas quand Jésus viendra chercher sa fiancée, mais on sait qu'il le fera. Et ça peut être n'importe quand. La tradition juive voulait que parfois les fiancés arrivaient à minuit. Mais pas pour faire peur, c'est parce que c'est l'amour qui l'emporte, parce qu'il a hâte de célébrer ses mariages, de se retrouver avec sa fiancée et commencer leur nouvelle vie. Non ? Alors nous, si Jésus arrivait là, à l'improviste, est-ce qu'on serait prêt ? Et surtout, est-ce qu'on serait content ? Ou plutôt contrarié ? Et là, je reprends Apocalypse. Là, on passe à Apocalypse 22. C'est la fin de l'histoire du salut. La fin de toute cette aventure de ces dieux fous d'amour pour nous qui fait tout pour qu'on puisse, à la fin, être ensemble. Et j'ai lu. Je pense que c'est un ange là qui parle au début. Que celui qui commet les mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Là, j'ai mis ces morceaux surtout pour cette phrase de Jésus. C'est Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt ». Et il est dit trois fois dans ces chapitres. Et l'histoire ne finit pas là, finit avec l'épouse et l'esprit qui disent à une même voix, « Viens, Seigneur Jésus. » C'est ce qu'on connaît très bien comme Maranatha. Alors, pour faire un peu récapitulation des questions que j'ai posées un peu à droite, à gauche, est-ce qu'on est conscient qu'on est fiancé? Est-ce qu'on a dit oui, on a fait profession publique? Est-ce qu'on a passé par l'eau? Si on a dit oui avec notre bouche, est-ce que vraiment on a dit oui avec notre cœur? Est-ce que notre avis s'est orienté vers cette jour J? Parce qu'en fait, les fiançailles, ça n'a qu'un sens si ça n'aboutit pas au mariage. Les fiançailles, c'est une préparation pour les mariages. On a fait un engagement avec Jésus, ou plutôt c'est un compromis. Est-ce qu'on a hâte de retrouver notre bien-aimé comme lui, il a hâte de nous retrouver à nous? En fait, cette phrase « je viens bientôt », ça semble un peu une moquerie, non ? Oui, oui, je viens bientôt, ça fait 2000 ans qu'on attend, ça veut dire quoi ? C'est bientôt, mais vous savez, dans la Bible, c'est écrit pas trois fois que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Du coup, peut-être c'est seulement des ans qui se sont écoulés, des jours, pardon, et du coup, c'est pas si grave que ça. Et pour résumer, la dernière question, est-ce qu'on se prépare pour vivre l'amour de notre vie ? Et j'ai fini déjà. Aujourd'hui, on a exploré une facette de Jésus, Jésus en tant que fiancé. On s'est penché dans l'histoire d'amour par excellence, celle qui parle d'un Dieu qui est fou d'amour pour nous. Il va tout faire pour qu'on puisse se réunir avec lui et vivre dans cet amour. On a appris qu'on est fiancé, que c'est du sérieux, qu'on est engagé, qu'on a reçu des cadeaux, qu'il y a un contrat par écrit, plein de promesses, promesses de sécurité, d'appartenance, d'amour, et que notre fiancé est parti, mais bon, il faut qu'il aille préparer un logement pour nous, et qu'il viendra nous chercher bientôt, un jour ou un autre, on sera devant lui, face à face, et notre joie sera complète. Je finis par une prière. Merci Seigneur pour ta parole qui nous nourrit, qui nous remplit d'espoir, de joie. Seigneur, je te demande que... je te demande Seigneur que ce qu'on a pu entendre ce matin, que ça puisse donner des fruits dans les cœurs de chacun et que puisse chacun avancer dans cette préparation Seigneur pour ces jours glorieux. On va te voir face à face. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.